Mesdames, messieurs, ceci est un podcast. Un podcast Éclipse de Lune qui a pour sujet la parité femmes-hommes dans le milieu de la scène rock. Alors Éclipse de Lune, c'est quoi? C'est une exposition, photo et vidéo qui donne la parole aux femmes. Parce que l'éclipse dont nous parlons ici, ce n'est pas celle de l'astre satellitaire que nous connaissons tous. On parle ici de Lune, L'UNE. Parce que trop souvent, il faut chercher un peu pour trouver des femmes musiciennes, techniciennes, directrices, programmatrices dans le milieu de la scène rock. Peut-être avez-vous découvert l'exposition lors de la 6e édition du Festival de la Guinguette Sonore. Peut-être l'avez-vous appréciée lors d'un autre événement. Peut-être que vous ne la connaissez pas. Certainement, le chemin qui vous aura conduit jusqu'ici est celui d'une curiosité. Alors rappelons que l'objectif est de mettre en lumière et de donner la parole à 8 femmes. Anaël, Emma, Eva, Isabelle, Dorothée, Capucine, Marine et Lucille. Chacune offre son témoignage et lorsque l'on visite l'exposition, leurs discours se croisent avec des interviews thématiques. Alors ici, vous en apprendrez un peu plus sur chacune d'entre elles. Mesdames, messieurs, ceci est un podcast, ou plus précisément une interview. C'est la version longue d'un témoignage que vous aurez entendu en bref lors de votre visite. Mesdames, messieurs, ce témoignage vous est proposé par l'association Les Oreilles en face des trous et par les artistes Bonniette et Gachouel. Il fait partie d'une série de 8 témoignages. Vous entendrez ici celui de Dorothée.
Donc je m'appelle Dorothée Gaillard, j'ai 53 ans, je suis la directrice administrative de l'usine à Istres, la salle de spectacle L'usine s'est dessinée à Istres, et depuis bientôt 20 ans, et je vis sur Arles depuis 20 ans.
Ok.
T'es originaire d'où ?
De la région centre.
Ok. Et du coup, avant, enfin, tu as toujours été dans le domaine de la musique t'as...
Alors, à peu près, ouais. Un peu, j'ai un peu touché à tout. En fait, mes études, non. J'ai fait un BTS communication et action publicitaire à l'époque, sur Paris. Ensuite, j'ai fait une spécialisation en relations publiques et c'est là qu'en fait, ça a un petit peu basculé par hasard. C'est-à-dire que j'avais un stage à faire et j'étais à mi-temps dans une petite boîte de prod où ils faisaient autant les pochettes d'albums que d'emmener les artistes en tournée, que de les emmener en enregistrement. Donc voilà, j'avais 21 ans, je découvrais complètement le milieu. Donc c'était, voilà, c'était... Et j'ai trouvé ça plutôt chouette, mais sans penser réellement en faire mon métier. Et puis un jour, ils m'ont dit, bah, on a une régie générale à faire au Théâtre du Châtelet, avec Catherine Lara, qui à l'époque était sur le projet d'Alfredo Arias avec les Romantiques. Et ils m'ont dit, bah, c'est toi qui vas faire la régie générale. Alors, pour tout avouer, en fait, à l'époque, je savais même pas ce que ça voulait dire. Donc, je me suis retrouvé pendant 10 jours au Théâtre du Châtelet à gérer des trucs improbables. Et voilà, ça a commencé en fait comme ça. Où, par chance, en fait, ils m'ont fait connaître tous les volets du métier en concentré sur 6 mois. Voilà, donc après ça, qu'est-ce qui s'est passé après ça? J'ai fait un petit break. Et après, j'ai fait une rencontre, voilà, par hasard aussi, et je suis rentré à Zone Franche, qui est l'association qui s'occupe des musiques francophones sur Paris. Et à l'époque, c'était, ne vous moquez pas, mais le Minitel, et donc on créait une base de données pour... Et le patron de Zone Franche de l'époque, sa femme était donc au fonds de soutien, à l'époque ça s'appelait, aujourd'hui c'est le CNM, elle avait besoin d'une assistante. Voilà, et ça a duré presque 15 ans là-bas, où j'étais après chargé de mission. Et voilà, et ça s'est enchaîné, j'avais envie de quitter Paris, je connaissais bien le directeur du Théâtre du Moulin, qui était un ami à l'époque. Voilà, tout ça s'est enchaîné. J'avais une amie qui était la responsable de com des Sud à Arles à l'époque aussi. Et je suis allé en mission là-bas. On s'est rencontrés. Ça a matché. Et puis, voilà, hasard des rencontres. Son mari, c'était donc le directeur de l'usine à l'époque, qui m'a dit, ça te branche de venir bosser avec moi. Voilà, et ça fait 20 ans.
Et du coup, au début, c'était quoi ton poste à l'usine?
À l'usine, aujourd'hui, je suis directrice administrative.
Ah, au début?
Au début, j'étais la directrice adjointe à l'usine.
Okay.
Quand Jean-Marc m'a embauchée, j'étais sa directrice adjointe. Voilà.
Ok.
Et directrice administrative, ça signifie qu'il y a d'autres directeurs
En fait, il y a un directeur artistique qui s'occupe de la programmation des musiques actuelles. Donc, à l'époque, c'était Jean-Marc. Donc, il a assisté à la création de l'usine en 98, qui est parti il y a 2 ans. Et donc, depuis 2 ans, c'est Alexandre Langlais qui a assisté de Richard à la programmation. Et moi, je m'occupe du reste, en fait. Comme je dis, je suis un peu le chef d'orchestre entre l'administratif, la technique et l'artistique. Ouais.
Et tu as tu as le droit de jeter un œil à la programmation ?
Oui, bien sûr. Enfin, voilà. Après, c'est assez collégial. Après, même si la décision finale et le travail principal d'Alex et de Richard sont d'aller chercher des artistes, d'avoir une ligne de programmation, forcément, voilà, on en parle ensemble, en fait. Ouais.
Mais du coup, ouais, l'usine sur la question de la programmation, en tout cas, c'est quoi les objectifs ? C'est un certain éclectisme ? C'est une certaine dominance rock ?
Alors, si tu veux, l'usine a toujours été assez éclectique quand même dans l'ensemble. Après, naturellement ou pas, c'est vrai que je peux me poser la question, mais c'est devenu un peu une salle de plus en plus rock, identifiée en tout cas par le public rock. Sûrement aussi par l'âge, par la génération, parce que, comme vous le savez, on est au milieu de nulle part, qu'on n'est pas une salle identifiée pour les jeunes, en fait. Pas d'accessibilité pour les transports, des choses comme ça. Et puis, la nouvelle génération, en fait, ils vont beaucoup moins au concert que nous, on pouvait y aller à notre époque. Ils ont d'autres loisirs ou d'autres façons de consommer les musiques. Donc voilà, ça s'est fait un peu comme ça. On a eu une période aussi variété, voilà, avec des fers scènes, avec voilà. Mais c'est vrai que le bâtiment, en plus le lieu, il a une espèce d'âme rock. Enfin, moi je trouve qu'il a vraiment une âme rock et que ouais, voilà. Après, on s'interdit rien. Hein. On a fait de l'électro, on fait du reggae, on fait. Mais voilà, il y a une petite touche rock, mais tous les différents rock en plus, pour le coup, pas forcément hein, de la pop rock au rock super énervé que peut nous programmer parfois Richard ou Alex. Mais ouais, c'est. Ouais, je trouve que le lieu s'y prête bien, et en vieillissant, il a vraiment un truc rock. Et c'est vrai que la première édition du Festival Rock à l'usine qu'on a fait l'an dernier, ben, c'était un peu une évidence en fait.
Bah, j'en profite, c'est vrai que nous, avec la guinguette sonore et les exports que vous nous permettez de faire à l'usine, c'est. Enfin, pour nous, c'est vrai qu'on le dit souvent, enfin, on le vit comme une chance et comme une superbe vitrine, parce que c'est vrai que c'est. Pour moi, c'est aussi. Enfin, l'usine, elle a cette vocation-là aussi de faire découvrir des groupes émergents et
bah, c'est une chance. Enfin, la chance qu'on a dans ce lieu, c'est que. Donc c'est un bâtiment qui appartient à la métropole, donc on a aussi la chance d'avoir nos partenaires financiers qui sont présents et qui sont à l'origine du projet et qui ont toujours fait confiance sur 25 ans, donc ça n'a pas de prix non plus quand même. C'est quand même un grand luxe. Donc effectivement, dans notre cahier des charges, il y a tout ce qui est découverte d'artistes, tout ce qui est politique tarifaire, et puis le lieu, ben, en ayant une jauge à 350 et la grande salle qui peut se découper en deux, soit à 700, soit à 1400, ça permet quand même une offre... vachement importante, quoi. Et c'est vrai que les concerts dans le club, voilà, moi je crois que ça doit faire partie de mes meilleurs souvenirs, c'est les concerts dans le club, parce que cette proximité du public avec les artistes, c'est quand même énorme, quoi. Enfin, voilà, on sent le public souvent, en fait la scène est là, quoi. C'est assez génial.
Et sur l'usine, du coup, il y a aussi, en tout cas, je pense à deux autres catégories de propositions. Il y a la part résidence artistique et la part, par exemple, l'accueil des publics sur des scolaires.
Ouais.
Du coup, comment ça se passe ? À quelle fréquence tout ça ? Enfin, genre, dans un premier temps, résidence artistique, vous faites ça
Alors, les résidences, il n'y a pas vraiment de règles, hein, parce que ça dépend des projets, mais ça dépend aussi de la programmation, en fait, parce que c'est ça aussi qui est un peu le canevas au départ. Il y a la programmation, et puis après, autour, on complète un peu les choses en fonction de... du temps qui reste et des propositions artistiques aussi, bien sûr, mais donc entre 5 et 10 résidences par saison à peu près. le Covid a relancé en fait vraiment ce projet des résidences et des résidences locales avec les groupes locaux. Parce que là, d'un seul coup, on était à l'arrêt complet, donc on avait du temps. Donc c'est vrai que ça nous a donné vraiment envie de relancer cette partie-là. Après, sous différentes façons, c'est-à-dire que ça peut être un groupe local qui a juste besoin de se positionner sur scène jusqu'à des têtes d'affiche qui viennent répéter sur la grande scène, où là, ils viennent parce qu'ils ont un show lumière de fou et qu'il faut le travailler. Donc là, on s'adapte. En fait, voilà, là, moi, je trouve que le plus de l'usine, c'est notre capacité d'adaptation. Je nous lance un peu des fleurs, mais on a une grande capacité d'adaptation, que ce soit... En fait, on estime qu'on reçoit tout le monde de la même manière, que ce soit un petit projet débutant ou un grand projet. Voilà, en fait, c'est un peu notre marque de fabrique à toute l'équipe, je trouve. Que ce soit artistique, en technique ou voilà, en accueil, je crois que c'est notre petit plus.
Et du coup, ouais, au niveau des actions culturelles, donc il y a le travail qui est fait avec des scolaires et tout ça, ça s'intègre aussi du coup au réseau social.
Carrément, alors ça s'est vraiment beaucoup développé ces derniers temps, sur ces trois dernières années. Et donc c'est Cédric et Nico des studios de répétition qui étaient un peu à l'origine du projet, en proposant d'abord des visites pédagogiques du lieu. Alors autant pour les scolaires, des tout petits, des maternelles, c'est assez rigolo, jusqu'à même des adultes en fait. Ça a commencé au tout départ avec le CE d'Arcelor, où on avait fait un projet qui s'appelait Sidérock, si ma mémoire est bonne. Et dans ce projet, on intégrait donc la visite du lieu, parce qu'en fait, on se rend compte qu'effectivement, le public qui vient un spectacle, mais il ne sait pas ce qui se passe derrière. Et souvent, c'est un petit peu ce qui plaît aux gens aussi, c'est de voir comment ça se passe, comment se passe une journée de concert. Donc c'est un petit peu parti de là. Et puis, les garçons se sont éclatés à le faire, franchement. Et après, donc, ils sont passés au maternel. Alors ils adaptent à chaque fois la visite en fonction du public. Et je trouve ça génial, en fait. Enfin, voilà, moi, j'aurais voulu, petite, j'aurais bien aimé connaître ce genre de truc. Parce qu'on voit dans les yeux des enfants, ils sont comme ça, la lumière, le son, c'est souvent d'ailleurs la lumière en premier lieu. Mais je trouve ça génial. Et ils ont eu du coup l'idée de faire, associé aux visites pédagogiques, ce qu'on appelle maintenant la semaine de la musique, c'est-à-dire d'aller à l'intérieur de l'école et leur montrer les instruments et les faire jouer et les faire découvrir, voilà, en associant. Et là, ça va faire une année pleine qu'ils font ce projet et c'est, voilà, on a que des très très bons retours. Parce que voilà, c'est notre public de demain aussi, quelque part. Et puis c'est l'éducation musicale. Enfin, on a tous les souvenirs de la flûte et du triangle en collège. Et voilà, je trouve que c'est quand même chouette, quoi. Enfin, voilà, c'est... Donc ça fait partie effectivement des différents projets de l'usine. Ouais.
L'usine, ça représente combien de salariés ?
15.
Et 15 sur personnes. Les 15, il y a combien de femmes ?
2.
Voilà. J'avais envie de creuser sur un point. Du coup, des fois sur ces visites-là, pédagogiques ou même du coup d'entreprise et tout, tu les fais toi des fois ? Du coup, tu es en contact direct avec le public sur ces visites-là ?
Non, ouais, c'est Cédric et Nico qui sont vraiment responsables de ce truc-là. Voilà, moi je peux passer dans la salle et s'il y a des questions, etc. Mais non, la plupart du temps, je leur laisse vraiment carte blanche sur ce projet, quoi.
Ok. Parce que du coup, je me pose la question sur la curiosité des publics et tout ça. C'est par exemple de qui vient les questions, tout ça. Est-ce qu'il y a une parité, genre par exemple sur les classes d'enfants, mm-hmm. Est-ce qu'il y a une parité, c'est les filles qui posent autant de questions que les garçons
Alors, ce serait intéressant de leur poser la question. Mais on n'en a jamais vraiment discuté. Mais en tout cas, quand moi je passe en salle, etc., ouais, c'est souvent les petits garçons qui sont... Les petites filles sont plus timides, et puis à un moment donné, elles se lâchent aussi, en fait. Hein. Donc, mais je leur poserai la question, parce qu'effectivement, je ne me la suis pas posée moi-même. Après, souvent, c'est plutôt beaucoup d'instincts féminines qui viennent sur les projets, j'ai remarqué, par contre. Mais sur les enfants, j'avoue que j'ai pas observé plus que ça, ouais.
Alors, on pose une question à tout le monde, mais si tu n'y réponds pas, c'est ok, puisque
personne n'y répond.
Puisque personne n'y répond.
Personne n'y répond.
En fait, on aimerait savoir quelle est ta Vénus du rock, donc ton...
Ma quoi, pardon?
Alors, la Vénus du rock, on l'a, ah, parce que bon, la Lune, l'éclipse, c'est tout ça, on a essayé de coller au champ lexical. Donc, ta Vénus du rock, c'est une icône féminine du rock qui t'aurait marqué, ou quelqu'un qui, voilà, que t'as aimé écouter, et que, enfin...
Ça remonte aux années 70, je pense, hein, tu vois. Les Janis Joplin, enfin voilà, pour moi, c'est des nanas. Mais après, c'est complètement une autre époque. Après, sur aujourd'hui, j'ai plus de mal. Je réfléchis, hein, en même temps que j'essaye de répondre, mais je. Ouais.
Et pourquoi Janis Joplin ?
Parce que j'ai beaucoup écouté, j'ai beaucoup adoré, j'adorais sa voix, son grain de voix, son. Voilà. Après, c'est pas rock, mais tous les Nina Simone, Billie Holiday, enfin voilà, je trouve que c'est juste un truc énorme. Enfin, en plus, il y a l'époque qui va avec et les risques qu'elles ont pris et toute l'histoire, et en plus, la musique qu'elles ont faite, c'est juste sublime. Enfin, quand tu vois qu'autant de décennies après, ça reste des références, voilà, donc ça c'est. Mais c'est, voilà, c'est parce que c'est ma culture musicale, en fait. Après, j'avoue que je peux avoir parfois des petits coups de cœur. Comme il y a 15 jours à la guinguette, tu vois, où voilà, tu vois un nouveau projet, tu fais « Ah, ok ». Mais je suis encore vieille génération sur mes références musicales.
et le pendant masculin, tu aurais un artiste
Le pendant
musicien,
masculin... Je vais rester dans les années 70. Hein. Mais bon, moi, j'étais longtemps fan d'Hendrix. Voilà, Pink Floyd... Peter Gabriel, enfin voilà, je suis très.
et c'est pourquoi pour leur jeu, pour leur jeu de scène, pour.
Ouais, pour la musique quoi, enfin vraiment pour. Enfin en tout cas quand je réécoute Led Zepp, bien sûr, évidemment, c'est partie des classiques pour moi, mais. Comme tout le monde, c'est associé à des moments de vie aussi. Ouais, Led Zepp, je me revois avec mon Walkman, avec le casque orange dans le métro. Voilà, c'est des trucs où Yes ou tous ces groupes là en fait, moi j'écoutais beaucoup de pas mal de rock quand même. Après j'ai été plus musique du monde et en vieillissant je suis plus pop rock, je me suis calmé mais de temps en temps j'ai besoin de réécouter pour me faire un shoot entre guillemets des bonnes musiques, voilà. Led Zepp je m'en lasse pas, enfin quand on a reçu Robert Plant à l'usine, enfin voilà, ça fait partie des trucs. Je me dis waouh, on l'a fait quoi. Voilà, les garçons c'était Motorhead, moi c'était Robert Plant.
Et du coup, je fais le parallèle avec l'interview qu'on a fait tout à l'heure avec Lucille, où les artistes qui ont été cités, enfin dont on a discuté ensemble et tout ça, c'était par exemple des filles comme Amy Winehouse, il y a eu
oui bien sûr,
avec Lavigne qui revient beaucoup,
ouais, avec Lavigne qui revient beaucoup, ouais.
Ah ouais,
et du coup enfin tu sais il y a une question générationnelle et tout ça, et en fait sur les artistes dont on a pu parler avec Lucille, il y avait la question forcément de la sexualisation qui arrive beaucoup, c'est enfin bah pour le coup Amy Winehouse et puis d'autres, hein, même Angèle sur une c'est pas là-dessus que ça réside, mais il y a effectivement le physique de poupée, tout ça.
Bien
et
sûr.
Pour le coup, Janis Joplin, c'est un contre-exemple qu'on n'a pas eu tout à l'heure, où du coup, cette sexualisation-là, pour le coup, perso, je la vois pas, quoi, tu vois.
Oui.
Et en fait, ouais, effectivement, il y a peut-être une sexualisation qui a évolué, enfin, je veux dire, des figures féminines, sexuelles et tout ça, bon, il y en a qui ont parcouru le 20e siècle et tout ça, bon, enfin, les. Marilyn Monroe, si on sort de la musique, et puis mais vraiment, c'est. J'ai l'impression que c'est en fait années 90, années 2000, en fait, que ça a véritablement. Toi, du coup, c'est quoi le regard que tu as eu sur l'évolution? Est-ce que tu t'es posé la question de cette arrivée-là, de la sexualisation des figures?
En fait, c'est relativement récent, moi, je pense, il n'y a même pas une dizaine d'années. Hein. C'est-à-dire que, en fait, c'est ancré dans les trucs, un peu, tu vois, de dire après moi j'ai jamais écouté de la musique parce que le mec est beau ou parce que la nana est belle, franchement pour le coup j'ai jamais sexué, en fait le truc c'est le grain de voix, c'est le son, c'est tout ça, mais pas forcément. Mais là récemment je me suis fait la réflexion on en repart là il y a pas très longtemps avec une copine, c'est quand il y a eu l'histoire de l'affaire de Hoshi avec le journaliste qui a balancé qu'en fait elle était moche et qu'elle avait pas le droit de, en gros, de, qu'elle ferait mieux de rester chez elle plutôt que de chanter, et que derrière Grand Corps Malade a enchaîné, tu vois, sur une réponse, je me suis dit waouh, on en est là en fait. Enfin, tu vois, je m'étais pas vraiment arrêté sur le truc. Voilà, ça semblait naturel, il y avait des mecs, des nanas, nanas. Mais je m'étais pas rendu compte de l'écart, et puis de du point de vue, quoi. Archaïque, hein, pour le coup, hein, pour être poli. mais tu vois, finalement, c'est, enfin, moi, en ce qui me concerne, c'est assez récent, parce que, comme moi, perso, je me posais pas la question. Voilà, c'est à travers le regard et les remarques de certains que tu dis, oh, qu'est-ce qui se passe, en fait?
Et dans tes goûts artistiques et tout ça, il y a une différence quand même entre tout ce qui est de l'ordre de la beauté physique et tout ça, et le goût pour l'esthétique. Parce que par exemple, tu sais, si on prend Gami, du coup, qu'on a interviewé hier, elle, pour le coup, elle travaille un univers esthétique avec le clip, tout ça. Toi, t'as un rapport particulier à l'esthétique artistique ou quoi? Enfin, c'est une question que tu te poses sans parler de beauté physique ou quoi? Enfin,
Non. Après, il y a des choses. Je suis très dans le visuel aussi. J'aime bien les belles choses, mais les belles choses qui me semblent belles pour moi, en fait. Enfin, c'est très. Tu vois, des belles scènes, des belles décos. Je te prends l'exemple de Julie Blasco, par exemple, de Blasco. Quand ils sont venus en résidence à l'usine, qui sont revenus pendant le Covid. À un moment donné, on a eu une grande discussion, c'est-à-dire que, tu vois, c'était bien feutré et tout, mais il manquait un tapis, il manquait quelque chose de plus chaud. Et moi, je suis très sensible à... je suis très plus dans les couleurs chaudes que dans les trucs... donc oui, l'environnement esthétique, il est super important, bien sûr. Une belle lumière, j'adore la lumière. J'adore les beaux shows. Enfin, des fois, il y a des musiques qui ne m'intéressent pas du tout, mais s'il y a un super beau show lumière... Et pour le coup, je trouve que parfois même ça sauve des concerts, un beau show lumière. Donc mes yeux, c'est autant important que les oreilles pour moi, ouais. Dans la vision du truc, en fait.
Et sur l'export guinguette qu'il y a eu, là, du coup, il y avait Sovox, il y avait Evan Ackerman, et...
Sovox, je me suis pris une claque, moi.
Ouais, Sovox. C'est Sovox, c'est toi qui a...
Bah écoute, autant bah, j'attendais Parade parce qu'on les a fait en résidence aussi et je trouve le projet, il est chouette. Bon, voilà, ça n'a pas pu se faire. Et Sovox, franchement, oui. Ouais, j'ai eu un coup de cœur. Ouais.
Okay.
Non, mais Venin Garmin, j'ai moins collé, mais c'est parce que c'est plus électro. Et que c'est moins mes goûts. Mais Sovox... alors même si je pense que Sovox, c'est pas forcément un projet qui peut exploser et durer. Voilà. Mais cette énergie et... enfin voilà, c'était trop chouette, quoi. Oui, c'était vraiment chouette.
On va enchaîner. par rapport au mouvement More Women on Stage, été 2021, toi tu l'as perçu, ce mouvement, enfin tu l'as perçu comment?
Été 2021. il serait temps, enfin je sais pas comment dire, mais moi je te dis, hein, je fais partie d'une génération qui voilà, et je suis en train de on est en train de voir une mutation, mais il serait temps, voilà, c'est vraiment un truc
c'est quelque chose que tu percevais avant?
Oui, bien sûr. Oui, ah oui.
Et est-ce que j'ai bien compris que t'avais, qu'il y a les directeurs artistiques qui se chargent vraiment de la programmation à proprement parler. Mais est-ce que, par exemple, comme dans une salle comme l'usine, il y a une vigilance par rapport au choix des groupes
De plus en plus.
D'accord.
Ouais, franchement, de plus en plus, clairement.
Ouais.
Et ça, je trouve ça super, hein. Mais après, voilà, on avait un petit peu la discussion avant le début de l'interview, mais c'est vrai que l'histoire des quotas, moi, c'est à double tranchant. Je pense qu'il faut sûrement en passer par là. Et à la fois, c'est un peu gênant, parce que ça devrait se faire naturellement. c'est difficile de se dire, il y a un groupe de filles qui est sur scène, est-ce qu'on les a programmées pour être dans le quota ou est-ce qu'on les a programmées pour leur projet artistique, tu vois. Donc ça, c'est vrai que à la fois, c'est nécessaire, parce que sinon, on n'y arrivera pas. Enfin, on n'arrivera pas à évoluer si, à un moment donné, on ne s'impose pas des choses. Mais voilà, je trouve ça compliqué de faire la part des choses en se disant, elle est là, pourquoi ? Pour le quota ou... Enfin, sans être à l'extrême, mais c'est un peu le sentiment que certains pourraient avoir, tu vois. Donc, elle est directrice de l'usine parce que c'est une nana ou parce qu'elle a les compétences ? Voilà, c'est un peu le truc. Mais je crois que malgré tout, enfin malgré le fait qu'au fond de moi, je trouve ça un peu pas dérangeant du tout, mais un petit peu bizarre comme démarche, à la fois elle est nécessaire, clairement. Voilà. Et dans tous les métiers, enfin voilà, et dans tous les quotas, c'est ce que je disais tout à l'heure.
Ça agit avec l'usine sur les financements que vous pouvez avoir, du coup.
Alors au niveau du CNM, ils sont vachement. Ils sont très très de plus en plus vigilants. C'est-à-dire que maintenant, quand tu fais une demande de subvention, même ne serait-ce que les simples droits de tirage, tu es obligé dans la liste de montrer le nombre de femmes et d'hommes qu'il y a eu dans ta programmation artistique. Ouais.
Et du coup.
Et le Prodis aussi, parce qu'on fait partie du syndicat national des producteurs de spectacles, qui eux aussi font un travail de plus en plus important, alors pas que sur l'artistique, hein, aussi c'est surtout sur notre métier, les producteurs, les bookers, les techniciens, tous les métiers du spectacle, parce qu'on est très 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 loin du compte.
Et du coup, justement, sur l'embauche, c'est une question qui a déjà été posée, qui est posée maintenant, qui va se poser après.
Alors, on n'a pas embauché depuis longtemps, mais en tout cas, oui, j'y suis hyper sensible, forcément, et de plus en plus, on est deux filles à l'usine, quoi. C'est révélateur de l'état de, alors c'est pas partout pareil, mais c'est quand même beaucoup ça, et je pense qu'effectivement, peut-être pas pour les bonnes raisons en tout cas, mais dans le théâtre on voit plus souvent des directrices artistiques, des directrices des grands théâtres, des grandes scènes nationales, et ça fait très longtemps, c'est souvent des postes assez féminins. En musique actuelle, pas du tout, et c'est vraiment moi quand j'ai commencé, donc il y a un moment, il y a une trentaine d'années, je me souviens de réunions où il y avait dans le monde des productions, il y avait deux productrices d'artistes nationaux et internationaux pour tous les producteurs français. Deux. Et forcément, c'était un peu des pitbulles parce qu'elles avaient dû vraiment batailler, jouer des coudes. Et donc, ça faisait des personnages assez... c'était assez impressionnant. Donc voilà, et on parle de ça il y a 30 ans. Et je trouve que ça a un petit peu évolué, mais quand tu vois les grosses prods, c'est quand même toujours des mecs, quoi.
Et pour toi, c'est quoi la cause ?
Je pense qu'il y en a beaucoup. Enfin, c'est culturel, déjà. Hein, ça remonte à très 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 longtemps. Hein. Quand on est petite fille, déjà, y a le papa, la maman, la petite fille, elle apprend à faire le ménage, et le petit garçon, il apprend à jouer aux voitures. Je caricature, mais bon, c'est quand même une éducation, voilà. Même si moi, j'ai eu la chance de ne pas grandir du tout dans ce truc-là, parce que j'étais plutôt un garçon manqué, je jouais au train et ma sœur jouait aux poupées, donc il n'y avait pas de... voilà, mais non, c'est vraiment une histoire d'éducation, puis cette espèce de pouvoir, enfin voilà, on le voit en politique, on le voit dans tous les domaines, donc c'est pour ça que ça rame. Là, c'est très très récent, moi je trouve l'évolution, franchement, hein. Moi, je me fais la réflexion, quand il y a une régisseuse générale, ouh, c'est la fête. Mais c'est pas normal de le noter. Mais en tout cas, c'est super. Et en technique, je crois que c'est le pire. Nous, on embauche une intermittente depuis longtemps, puisqu'on l'a eue comme stagiaire et aujourd'hui, on l'a comme intermittente. Mais on a une intermittente. Donc je pense qu'il y a plein de raisons. Je pense que... l'image, et je crois que ce métier doit aussi aujourd'hui maintenant passer beaucoup à travers l'image. C'est-à-dire que si on voit plus souvent des visages féminins sur les affiches, sur tu vois, même tous les supports, indirectement, ça va commencer peut-être à pré-programmer les cerveaux. Et puis je pense que la nouvelle génération, par contre, va bien nous mettre un coup de pied dans le truc, et tant mieux. En disant, mais c'est bon, on arrête de tu vois, voilà. Mais il y a du taf, hein. Je pense que la route, elle est encore un peu longue. Hein. Il y a plus de place, il y a plus d'ouverture, mais c'est quand même encore...
Ouais. Toi, donc, ce parcours, du coup, tu l'as senti, des fois, est-ce que des fois, tu t'es senti discriminé par une phrase, par des a priori, tu sais, peut-être, quelqu'un qui arrive et puis qui va parler à quelqu'un d'autre parce qu'il ne dit pas dans sa tête que ça va être la directrice?
Ouais. Enfin, alors... Peut-être moi à l'usine, je l'ai connu plus jeune en fait. Ouais, je l'ai connu plus jeune ce côté. Alors c'est pas de la discrimination, c'est juste. Ouais, en fait, t'es pas très légitime. Enfin, t'es jeune, t'es femme. Comme tu dis, effectivement, en plus aller parler au mec qui est à côté. Et. Depuis que je suis à l'usine, non, parce que j'ai eu la chance, donc l'ancien directeur artistique et ami, hein, grâce à qui je suis là aujourd'hui. Comme j'ai toujours dit, c'était ma meilleure copine. C'est-à-dire que voilà, c'est quelqu'un qui a toujours aimé s'entourer de femmes, mais pas pour les mauvaises raisons. Voilà, parce qu'il trouve qu'effectivement, lui, par contre, il trouve qu'on a autant de légitimité. Donc je me suis jamais senti, en tout cas avec lui ou ne serait-ce qu'avec l'équipe, dans cette situation. Après, ouais, j'ai vécu un peu des situations de misogynie à deux balles. Où tu dois quand même plus prouver que t'es capable que ton collègue. Ça, c'est une réalité. Après, j'en ai pas plus souffert que ça, je vais pas mentir. Ça m'a mis en colère, parfois, oui, parce que bon, voilà, je vois pas pourquoi. Mais j'en ai pas, voilà, j'ai pas été traqué ou harcelé, ou voilà, parce que y a ça aussi. En fait, tant qu'il y aura aussi ce truc de propos sexistes à deux balles, tu vois, il y a ça aussi. Je veux dire, cette image-là fait que c'est plus difficile pour des femmes de s'envoyer sur une équipe de techno ou d'artistes ou de prod quand t'as des blagues voilà, c'est plus des blagues en fait, au bout d'un moment, c'est lourd. Enfin, voilà. Donc même pour des femmes elles-mêmes, je pense qu'il y en a qui se disent non, moi j'y vais pas, quoi. Voilà. Alors heureusement, hein, c'est pas du tout le cas. Voilà. Mais par contre, à contrario, j'ai remarqué, nous, depuis qu'on embauche l'intermittente, il y a un tel respect par contre de la part de l'équipe que ça adoucit vachement les choses. D'avoir un personnage féminin au milieu d'une bande de mecs, quoi. Tu vois ? Parce que c'est des mecs, c'est des gentils. Mais quand t'arrives dans une bande de mecs un peu lourds, quand t'es femme, t'as pas forcément envie d'y aller et t'as pas forcément l'énergie ou la force de dire ouais, moi je vais jouer des coups, je vais leur prouver que je suis capable. Donc je pense que si ça passe aussi par là, hein, l'évolution de la parité, c'est que tant qu'il y aura des gens pour faire des trucs pourris, enfin des blagues pourries. Voilà, c'est mon avis, hein. C'est ma vision des choses, mais c'est vrai que voilà, entre tout dire et ne plus rien dire, parce qu'en fait faut pas arriver non plus à l'extrême contraire, on est des êtres humains, on a des relations humaines, mais oui, l'ancienne génération quand même, il y a des fois c'était parfois un peu lourd.
Sur ce, t'es ce directeur du coup dont tu dis c'était ta meilleure copine?
Ma meilleure copine, elle est en retraite. Ma meilleure copine est en retraite. Et voilà, après, il est toujours actif, hein, sur son autre lieu, qu'est le cargo de nuit à Arles. Mais voilà.
Et du coup, tu disais qu'il aimait s'entourer de femmes, mais pas pour les mauvaises raisons. Mais du coup, est-ce que lui, il s'est pris des réflexions sur le fait qu'il embauchait des femmes?
Non. Franchement, non.
On ne lui a jamais dit, tu sais, par exemple, ouais, tu fais ça pour...
Non, pas du tout. Non, vraiment pas du tout. Non, vraiment. Après, on a quand même la chance... Enfin, moi, je parle de l'usine, hein, mais pour le coup... Moi, quand j'ai été recruté, donc j'ai été recruté par ma meilleure copine, par Nicole Julia, qui était déjà adjointe à la culture, donc avec une femme à la tête du truc, c'est plus sûr... Enfin... c'est moins difficile en fait, je pense. Hein. Donc je pense que j'ai aussi eu cette chance-là, c'est pour ça peut-être que moi j'ai pas trop souffert de trucs, c'est que quand à la tête de l'histoire c'est une femme, je pense que tu te sens presque plus légitime. Je suis pas seul, enfin, tu vois ce que je veux dire, même si c'est pas du tout les mêmes niveaux, mais voilà, je suis pas seul. Et ça veut dire qu'il y a une démarche déjà. Donc non, j'avoue que sur l'usine, je vais pas à mentir, même en étant entouré que de garçons, ça va. Puis bon, après, l'expérience est là, je fais que j'ai moins peur qu'avant aussi quand même. Bon. Je serais arrivé à 20 ans au milieu de... Voilà, ça aurait peut-être été plus compliqué, mais là ça va, c'est un peu plus facile quand même.
On revient aussi à la question de la légitimité. En fait, c'est un mot qui a été fil rouge sur les six interviews. Je crois qu'il est sorti sur les six interviews, celui de la légitimité.
Et ouais, c'est ça qui est difficile. Enfin, ouais, c'est qu'à un moment donné, enfin, déjà quand t'es jeune et que tu te lances dans la vie, t'as besoin de faire tes preuves, que tu sois garçon ou fille. Mais quand t'es fille, ouais, c'est sûr que dans un milieu d'hommes, c'est quand même. Oui, t'es obligé. T'es obligé de. En fait, t'es toujours obligé presque de te justifier de ce que tu sais faire. Après, je te dis, personnellement, j'ai pas tant souffert que ça, je vais pas faire ma... Voilà. Mais j'ai connu des... Oui, j'ai connu des nanas qu'on en chié. Ouais.
Qui en ont chié, du coup, pour des raisons de réflexion, tout ça, ça arrivait...
Ouais. Oui. Là, pour le coup, on te fait bien sentir que t'es une femme et que bon, t'as pas le niveau, donc... Mais sur le côté, puis on verra après. Oui, voilà. Mais dans ça se voit dans tous les milieux, hein, que ce soit le sport, la culture, enfin voilà, politique, enfin on en parle tellement, mais c'est une évidence. Dans le monde de l'industrie, c'est juste un truc de fou. Moi j'ai une amie qui est à la tête d'un cabinet de recrutement, machin, et elle me dit c'est. C'est raide, quoi. Enfin, voilà, là, pour le coup, elle, c'est vraiment raide. Culture, on est quand même dans l'ensemble plus souple, pas partout, mais enfin, en tout cas, moi, j'ai eu la chance d'être dans une structure où c'était cool, mais elle me raconte des trucs, mais c'est des trucs de malade. Ouais, ça passe par tu vois, la tenue physique aussi, voilà. Pourquoi il faut être en tailleur, talon Enfin, il y a toute cette image, quand tu parlais de, tu vois, d'esthétique, mais c'est aussi ça, c'est... Moi j'ai toujours réussi à tenir sur mon look mais parce que j'ai pas envie d'être déguisé dans la vie, sinon je me sens pas moi, donc ça, voilà, ça renvoie ça. Et souvent on force dans le milieu féminin à les obliger à avoir cette panoplie, voilà, de rentrer dans un, tu vois, voilà. Et je trouve qu'il y a certains milieux qui sont encore plus raides que peut-être que dans la culture.
On va continuer avec nos petites questions tram. Qu'est-ce qui évoque pour toi Éclipse de Lune, L'Une?
J'ai un petit peu réfléchi, mais... Non, mais en fait, j'avais l'image de l'éclipse avec la Terre, c'est l'homme, et la Lune, c'est la femme, et que voilà, à un moment donné, il faut que... Arrêter que ça fasse de l'ombre à l'autre, quoi. Voilà. C'est un peu cette image-là que j'ai. Et le logo, enfin en fait c'est plus le logo qui m'évoque cette image-là. Alors je sais pas comment vous l'avez travaillé, mais c'est voilà Gaëlle ce que Martinez. Ça m'a évoqué.
Hein? C'est notre ami Gaël Martinez qui est le graphiste.
D'accord.
Historique de la guinguette, qui a proposé à la fois et le logo et
le nom. D'accord.
Et ça nous a de suite emballé. Enfin on s'est pas trop posé la question. Alors tu as déjà commencé à l'évoquer, mais de façon un peu peut-être un peu synthétique, quels sont ou quels seraient selon toi les leviers qui permettraient que les femmes soient plus visibles sur scène, backstage, dans l'administratif?
Ouais, je pense qu'il y en a la formation, l'image qu'on donne de notre métier. Ouais, l'éducation, quoi. Enfin, voilà, c'est vraiment un truc. Après, voilà, aujourd'hui, effectivement, on voit plus facilement, entre guillemets, des femmes sur scène ou dans les bureaux. La technique, on est à 30 000 lieues de l'histoire, quoi. Et c'est pour ça que je parle d'éducation et de formation. Alors, je sais pas, enfin, sûrement qu'il y a plusieurs choses. C'est que, entre des femmes qui n'osent pas aller dans ce milieu en pensant que c'est un milieu réservé aux hommes, parce que physique, parce que etc., est-ce que c'est un milieu où on se sent mal à l'aise ? Franchement, j'ai pas la réponse, mais je pense qu'effectivement, le fait de. Si on commence à avoir de plus en plus de femmes, ça va devenir naturel. Ça va donner envie aux jeunes femmes ou de peut-être de faire ce métier. Peut-être qu'aujourd'hui, une fois de plus, on parle de légitimité. Tu vois, quand tu vas dans une salle de spectacle et que tu vois qu'en backstage, c'est très masculin, qu'à plein niveau, c'est très masculin, tu te dis, bah, non, en fait, c'est pas pour moi.
Je voulais parler des métiers qui sont en périphérie. Type catering, je ne sais pas quoi citer d'autre.
La sécu,
ouais. C'est des métiers genrés, ceux-là. C'est des métiers genrés.
Ouais. Ouais. À la cuisine, les femmes, et la sécu, les garçons. Alors, même si une fois de plus, il y a forcément des contre-exemples, heureusement, hein. Nous, en ce qui concerne le catering de l'usine, bah, c'est une maman et ses deux fils qui ont cette boîte de catering depuis, je pense, une grosse trentaine, ouais, plus que ça pour la maman, quoi, une grosse trentaine d'années. Donc les deux fils sont là pour faire à manger. Après, ils ont des équipes, ils font monter des équipes, et pour le coup. Je pense qu'ils sont relativement peut-être dans la parité finalement, sauf que eux, la difficulté qu'ils ont, c'est clairement de trouver des gens pour faire ce boulot qui est assez ingrat, que tu sois homme ou femme en fait. C'est-à-dire que t'es un poste clé du spectacle, parce que comme je dis toujours, les prods qui sont tournés, le truc qu'il leur faut, c'est bien dormir et bien manger. C'est aussi important que d'avoir l'équipement scénique qu'ils ont demandé, je pense. Et donc ils ont un rôle super important pour les artistes et pour nous, et à la fois c'est un boulot hyper ingrat. Donc eux, ils ont une problématique générale aujourd'hui de leur métier. Alors moi, j'en discute régulièrement avec eux, ils n'arrivent plus à trouver personne en fait, pour faire ce boulot, que ce soit homme ou femme. Là, pour le coup, ils sont pas du tout dans le... Enfin, ceux avec qui on bosse, hein. Ils sont pas du tout dans le truc sexiste. C'est juste que le métier, il est pas bankable du tout. Voilà. La sécu, c'est pas pareil.
Bah, justement, j'avais posé la question sur la sécu, parce que du coup, au niveau... Enfin, quand on va à l'usine, du coup, il y a des femmes qui font la sécu.
Ouais.
Et comment, c'est quelque chose que t'as vu apparaître depuis peu?
Non, c'est une chose que je demande, moi. En fait, voilà. C'est voilà, je pense que c'est très important qu'il y ait la présence de femmes sur le lieu, parce que ça fait un équilibre, et souvent ça apaise des situations de tension. Enfin, en plus on l'a clairement constaté sur des... Heureusement, c'est rare, mais il nous est arrivé d'avoir des soucis et des problèmes de tension, mais en fait la présence d'une femme, ça calme.
Ouais.
Pas, voilà. Mais on l'a vraiment vu concrètement dans des situations. Ouais. Donc la dernière situation très concrète, c'était, je sais plus quel concert, bref, la personne était dehors, a priori aurait frappé sa femme en présence du papa de la dame. Donc forcément les gens qui étaient dehors s'en sont mêlés. On a vite envoyé la sécu, parce qu'en fait, à un moment donné, faut pas tout mélanger, on va pas faire une baston. Et le fait qu'il y ait une femme dans la sécu, voilà, elle l'a pris à part, elle l'a gérée, et ça a tout de suite fait... Voilà. En plus, cette personne-là en particulier, elle est exceptionnelle. Enfin, elle a une façon de gérer les tensions... ouais, elle est très forte, voilà. Et c'est pour ça que ouais, elle fait partie des gens de l'équipe de sécu, que je veux absolument qu'elle soit là, et pour ces raisons là en fait, ouais.
Ça fait longtemps que c'est une exigence de ta part.
Comment?
Ça fait longtemps que c'est une exigence de ta part, du coup, d'avoir une
J'ai toujours demandé des femmes à l'accueil, en fait, déjà. C'est important quand t'arrives dans un lieu, je trouve, que En plus, au départ, il y avait le problème de la fouille, au tout départ, avec les histoires d'attentats, etc. Donc, déjà, je trouvais normal qu'une femme fouille le sac d'une femme. Voilà, c'est plus serein. Et puis, non, en termes d'image, parce que voilà, c'est un peu comme le catering pour les artistes. Le public, les personnes, les premières personnes qu'ils voient quand ils vont dans une salle de spectacle, ce sont la sécu. Et voilà. Enfin, c'est ma vision, hein, mais voilà, t'arrives sur une salle, une fois que tu t'es garé, et tu arrives à la porte, qui est-ce que tu vois? La sécu. Donc en termes d'accueil, je trouve ça super important, parce que si tu rentres et que c'est accueillant, bah voilà, tu vois, d'autant plus après, tu rentres dans la salle, t'es déjà détendu. Si c'est deux colosses de ouf qui te... Tu vois, même si c'est des gentils, mais c'est visuel.
Si t'as un message à faire passer, tu choisis le groupe de personnes à qui tu veux le faire passer. C'est le moment impro et carte blanche.
Ouf.
Pour, alors évidemment, en lien avec Eclipse de Lune et la thématique qui est portée par ce projet, mais si t'avais un message à faire passer, ce serait lequel?
Et les filles, allez-y, quoi, en fait. Voilà. Allez-y, c'est tout va bien. Tout va bien se passer. Voilà, il y a de la place pour tout le monde et il faut vraiment. Voilà. Ouais.
Merci.